Ceci est un message du ministère de l'Éducation populaire. Une fois par semaine, les fonctionnaires du ministère de l'Éducation populaire prennent l'antenne de Radio Piquet pour donner la parole à celles et ceux qui l'apprennent mieux que nous.
Aurélien Casta est sociologue et auteur du livre « Un salaire étudiant, financement et démocratisation des études ». Il est venu sur Brest sur invitation de l'association d'éducation populaire Place aux idées. Ce MEP est découpé en trois parties. La première partie est son intervention à la fac de Brest le mardi 6 novembre 2018, intitulée « Face à Parcoursup et aux réformes, et si on revendiquait un salaire étudiant ?» La deuxième partie est le débat qui a suivi avec la salle. La troisième partie est une interview de ce même Aurélien Casta, réalisée le mercredi 7 novembre dans le studio Piquet. Les fonctionnaires du ministère de l'Éducation populaire te souhaitent une bonne écoute.
Alors, je vais rapidement présenter la soirée en deux minutes et puis ensuite je laisserai Aurélien Casta développer son propos. La soirée, en fait, ça va être 45 minutes environ. On avait convenu de ça, 45 minutes d'intervention d'Aurélien, plutôt forme à conférence, quoi. Et ensuite, 45 minutes, enfin, le temps que vous voulez, de discussion, sachant qu'on doit rendre la salle à une certaine heure quand même. Du coup, j'en profite pour remercier le laboratoire de sociologie, le LabBERS, voilà, qui nous accueille ici à l'UBO. En fait, moi personnellement, mais aussi Catherine et Mathieu qui sont au fond de la salle, qui avons un peu organisé la venue d'Aurélien, on n'est pas membre en fait de l'UBO. On n'est ni étudiant d'ailleurs, ni enseignant-chercheur. On est militant quoi, d'une association d'éducation populaire qui s'appelle Réseau Salariat, que vous connaissez peut-être, en particulier grâce à la figure de Bernard Friot, ou alors de la thèse du salaire à vie. Voilà. Je ne vais pas en parler beaucoup plus. Ce qui nous avait semblé intéressant, c'est que donc on connaissait Aurélien, qui fait aussi partie du réseau Salariat, et qui a donc écrit un ouvrage sur le salaire étudiant. Ça nous paraissait intéressant de le faire, évidemment, à l'UBO, quoi, sachant qu'en plus... ces galins, moi j'y étais pas, mais je sais que j'étais étudiant sur Brest, mais je sais que ces galins, c'était quand même la fac qui bougeait le plus au niveau des mouvements sociaux, et donc ça nous semblait intéressant de faire ça ici. Que dire ? Ouais, juste pour finir quand même la présentation de la soirée, donc il y a une petite table de presse au fond, vous pouvez retrouver des ouvrages, donc l'ouvrage écrit par Aurélien. Également un autre ouvrage sur l'autonomie que je ne saurais pas très bien présenter.
C'est l'autonomie en mouvement sur l'histoire des mobilisations et du syndicalisme étudiant en France, en gros.
Plus diverses brochures, enfin, vous pourrez voir ça avec Mathieu. Sur l'affiche, on avait marqué « Face à Parcoursup et aux réformes », on pourrait même dire aux réformes Macron, « Que faire ?» et pourquoi pas revendiquer un salaire étudiant. En fait, il y a un tableau assez noir qui est dressé aux étudiants aujourd'hui. Moi, je suis prof dans le secondaire. Donc je suis prof de maths au collège, lycée. Et en fait, le tableau est assez sombre, quoi. Même si on est critique de Parcoursup, ben, on ne voit pas trop de solutions. On se dit, en salle des profs, « Putain, t'as vu, il y a des pré-étudiants maintenant dans la banque, au CMB. J'ai vu, il y a des pré-étudiants. C'était pas proposé, ça, avant. Puis les frais d'inscription, c'est de plus en plus cher. Et puis, on entend des histoires des enfants, des connaissances qu'on a. » Mais il n'y a jamais vraiment de solution, quoi. On ne voit jamais quelque chose de lumineux, c'est toujours assez sombre. Et je sais que quand j'ai parlé de salaire étudiant avec certains collègues, quand même, ça les attirait, quoi. Ils disaient, ouais, ça a l'air chouette, enfin, ça a l'air compliqué, mais ça a l'air chouette. Donc on s'est dit, il faut organiser une conférence, à un moment, il faut rencontrer les chercheurs, il faut lire des livres. Et peut-être que ça va nous permettre de trouver une solution, des pistes de solution pour sortir de... Pour sortir des réformes, des contre-réformes en cours, quoi. Voilà, pour l'introduction, je te laisse avec ça. Donc voilà, que faire face à Parcoursup et aux réformes Macron ?
Merci Loïc, merci Suzy aussi. Donc, face à, voilà, comme tu dis, il y a effectivement un contexte aussi dans l'enseignement supérieur assez pesant suite à Parcoursup et puis aussi à la mobilisation qu'il y a eu au printemps, qui a été assez importante, mais qui, mine de rien, n'a pas empêché la mise en place de cette réforme. Je vais quand même prendre le temps de représenter ou de présenter comment je vois cette réforme, quel sens on peut lui donner avant d'en venir. Donc désolé de remettre, je vais remettre un peu quelques sous dans la musique concernant ce contexte un peu pesant, un peu sombre, mais je pense que c'est quand même important de s'assurer qu'on a aussi la même vue sur ce contexte, qu'on le comprend d'un point de vue, ne serait-ce que d'un point de vue factuel, et puis éventuellement qu'on partage des éléments de diagnostic sur ce que c'est, ce que ça implique. Et puis, dans un second temps, je viendrai à une actualité un peu plus rafraîchissante à mes yeux, qui est donc celle du salaire étudiant et puis du travail étudiant, parce que c'est aussi un point de vue derrière le salaire étudiant, c'est un point de vue du travail étudiant. Je reviendrai donc à une actualité rafraîchissante qui, encore une fois, de mon point de vue, vient des mobilisations étudiantes qui sont, à mon avis, l'élément principal de solution à cette sinistrose là qui traverse l'enseignement supérieur, et puis l'élément qui pourrait véritablement dégager une porte de sortie à mes yeux. Mais encore une fois, tout ça pour en discuter, et puis je vais présenter exactement ce que j'entends par là. Donc concernant la réforme Parcoursup, c'est une réforme donc qui a été mise en place par le gouvernement, qui a été instaurée au printemps. On a beaucoup échangé depuis plusieurs mois autour de cette réforme, et puis aussi de la façon dont elle est écartée, notamment des étudiants de certains milieux, et notamment les étudiants des milieux populaires de l'enseignement supérieur, le risque que ça faisait planer. Non pas je veuille remettre en cause cette analyse, cette interprétation, mais je pense que il faut quand même aller plus loin, dégager d'autres éléments de compréhension, notamment à la suite de ce qui est sorti dans les Macron Leaks. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle forcément, mais donc il y a eu les échanges entre les conseillers les plus proches d'Emmanuel Macron pendant la campagne électorale ont été publiés. Et de ce point de vue-là, on voit que Parcoursup, en fait, ça s'intègre dans un projet beaucoup plus global pour l'enseignement supérieur, et puis peut-être au-delà. En résumé, quand vous regardez ces échanges, vous voyez, bon, de façon très factuelle, qui regroupe en fait les conseillers. Bon, ce sont des fonctionnaires. Vous avez aussi des économistes, hein, dans les échanges. Vous avez aussi des responsables d'établissement, la plupart du temps, qui ont travaillé avec la conférence des grandes écoles, ou alors la conférence des présidents d'université, et qui ont donc préparé le programme d'Emmanuel Macron en matière d'enseignement supérieur. Pour le résumer assez vite, et puis à la hache, vous voyez dans ces échanges quand même que ce programme, derrière ce programme, et puis derrière la réforme Parcoursup, en fait, il y a trois intentions. Ces trois intentions, la première d'entre elles, c'est quand même, avec Parcoursup, l'idée, c'est quand même de mettre en place une réforme qui soit véritablement un levier à la hausse des frais d'inscription, et puis à l'endettement des étudiants. L'idée, à court terme, dans les prochaines années, c'est quand même de mettre en place des prêts étudiants remboursables après les études, et qui seraient notamment subventionnés par l'État. L'État mettrait en place ces prêts étudiants et les proposerait à toutes les personnes en formation dans le supérieur. Derrière ça, l'idée, c'est plus globalement de préparer une hausse importante des frais d'inscription, notamment à l'université, où là aujourd'hui on en est à quelques centaines d'euros, mais quand vous voyez les échanges des conseillers, ça prendrait une toute autre ampleur, et Parcoursup est vraiment un levier vers cette future hausse des frais d'inscription. Vous le voyez notamment dans l'un des échanges entre les conseillers, il y a toute une assistance autour des formations courtes. On veut développer les formations courtes, hein, j'y reviendrai un peu plus par la suite, mais derrière, il y a l'idée qu'il faut encourager les libertés des établissements. Si je cite les échanges, on veut encourager, entre guillemets, donc l'innovation, on veut encourager la mobilisation du génie propre, le terme est utilisé, le génie propre des établissements, des équipes pédagogiques, le talent spécifique aussi des équipes. Et derrière ça, vous avez la volonté d'encourager les établissements à développer tout un ensemble de formations, de filières, où les frais d'inscription peuvent d'ores et déjà en fait, être augmentés. C'est le cas il y en a ici, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, il y en a dans toutes les universités, en fait, c'est notamment le cas des diplômes d'établissement, c'est des diplômes qui sont un peu dérogatoires, on parle aussi des diplômes d'université, qui sont dérogatoires aux tarifs nationaux mis en place sur les frais d'inscription. Il s'agit aussi d'encourager la formation continue, parce que ça permet aux établissements d'appliquer d'autres tarifs que ceux qui sont en vigueur pour les étudiants en formation initiale. Et à terme, l'ambition, donc, c'est quand même aussi, dans les prochaines années, d'augmenter les frais d'inscription des étudiants en master et puis aussi des étudiants étrangers. Ça aussi, c'est dit, c'est des choses qui sont dites explicitement dans les échanges. Le contexte de ces échanges, c'est quand même aussi vous avez derrière tout ça aussi une fascination pour les pays anglo-saxons et puis aussi notamment pour le Royaume-Uni qui est régulièrement évoqué, où on a des frais d'inscription qui sont à 10 000 euros l'année, avec dans un contexte de développement des prêts étudiants qui sont tout aussi importants. Hein. Au Royaume-Uni, c'est 10 000 euros l'année de licence. On sent chez les conseillers la volonté de se rapprocher de ça, peut-être pas forcément jusqu'à 10 000 euros, mais 5 000 euros pour eux, pour une année d'université, ça leur semble tout à fait légitime. Et la réforme Parcoursup, elle est vraiment, notamment avec les formations courtes, le développement des filières un peu dérogatoires, elle est vraiment vue comme un nouvel encouragement à la prise d'initiative, à la liberté, à la prise de liberté des établissements et donc une acclimatisation à certaines libertés, donc notamment celle de sélectionner leurs étudiants, celle d'augmenter les frais d'inscription dans certaines filières, pour à terme encourager la liberté qui est beaucoup plus fondamentale pour les conseillers, une liberté de déréguler complètement en fait, les frais d'inscription pratiqués dans les établissements. La deuxième intention des conseillers, c'est aussi de mobiliser beaucoup plus qu'aujourd'hui, en France, l'enseignement supérieur privé. En fait, vous avez en France, c'est pas forcément tellement connu, mais depuis une quinzaine d'années, on a une hausse des effectifs de l'enseignement supérieur privé, dans un contexte où cette filière de l'enseignement, elle est très peu contrôlée, très peu régulée. Vous avez aujourd'hui 20% des étudiants, des 2,6 millions d'étudiants aujourd'hui, il y en a 20% qui sont dans l'enseignement supérieur privé. À la suite de Parcoursup, vous avez peut-être vu des articles qui disaient qu'en fait, l'enseignement supérieur privé était le grand gagnant de cette réforme. Ça peut se justifier, je vais y revenir. Mais dans ces établissements, donc, en plus de sélectionner les étudiants et donc d'appliquer en quelque sorte déjà Parcoursup, vous avez des établissements qui développent donc, les fameuses filières courtes évoqué avec la première intention. Vous avez aussi des établissements qui pratiquent déjà des frais d'inscription à 10 000 euros l'année et puis qui nouent aussi des partenariats avec des banques commerciales pour proposer des prêts aux étudiants. Dans les notes, c'est notamment dit textuellement, c'est l'ensemble de l'enseignement supérieur, y compris les formations et les écoles privées, que la réforme des formations post-bac, et donc la réforme Parcoursup, doit mobiliser. L'intention, en fait, l'intention ici, en fait, elle est double. Il s'agit je l'ai évoqué, d'encourager les étudiants qui ne peuvent pas s'inscrire dans le public à aller s'inscrire dans le privé. Il y a cette intention. La deuxième intention, notamment ceux qui ne trouvent pas de place dans les filières du public, la deuxième intention, c'est aussi, on voit bien dans les échanges, encore une fois, d'encourager, en fait, des établissements dont les plus proches conseillers d'Emmanuel Macron se sentent beaucoup plus proches que les universités publiques. Vous avez vraiment une appréciation positive en fait sur ces établissements, parce que notamment il y a toutes ces libertés, etc., qui sont particulièrement bien vues, notamment par certains présidents d'universités publiques. Et donc voilà, ces conseillers se sentent beaucoup plus proches de ces établissements, et notamment parce que pas mal d'entre eux y sont passés. La troisième attention avec Parcoursup, c'est aussi de changer la conception qu'on a de l'étudiant, en fait, de l'étudiant et de l'étudiante, la conception dominante qu'on peut en avoir, notamment dans les universités publiques depuis des décennies. Vous le voyez là encore avec la volonté qui est exprimée telle quelle de relancer les formations courtes professionnalisantes à l'université. L'idée, ce serait de développer, par exemple, là aussi, c'est des termes des échanges, hein, développer des licences de métier, de décloisonner aussi, de décloisonner différentes formations, notamment les licences dites générales, avec tout un ensemble de formations courtes, plus professionnalisantes, comme les licences professionnelles, ou encore les DUT. Là aussi, c'est évoqué directement. Au fond, derrière ça, derrière cette volonté ces mesures très précises, vous avez quand même la volonté de changer radicalement, c'est ce que j'évoquais, la façon dont on se représente l'étudiant et l'étudiante. Notamment, l'idée avec ces filières, ces filières courtes professionnalisantes, ces décloisonnements évoqués, l'idée, c'est de faire croire aux étudiantes, aux étudiants, qu'ils vont pouvoir rentrer rapidement sur le marché du travail. À la fois pour que ces personnes en formation soient prêtes à payer pour leurs études, et puis aussi, si on met en place les prêts, pour qu'elles soient davantage en mesure de les rembourser rapidement. Et derrière la mise en place de ces filières également, et donc de ces décloisonnements, vous avez aussi la volonté de faire passer les étudiants, de changer le rôle économique, notamment de l'étudiant, la conception économique qu'on peut avoir des études, et de faire passer les étudiants, de les faire passer pour des consommateurs, des consommatrices. Et éventuellement, si on les fait passer pour des travailleurs, des travailleuses, dire à cette occasion, avec ces formations et ces formations courtes professionnalisantes, c'est aussi une occasion de dire que ces personnes-là ne sont pas encore des travailleurs, ne sont pas encore des travailleuses, qu'elles ne sont pas en mesure de produire des choses utiles, et que tout l'enjeu de l'université, et notamment de ces licences de métier qui veulent être créées, c'est d'en faire des personnes réellement productives, des personnes qui vont pouvoir être réellement considérées comme des travailleurs, des travailleuses, et notamment les faire passer comme des futurs travailleurs, des futures travailleuses. Vous avez derrière cette troisième intention, vous avez vraiment cette idée de changer la conception qu'on peut avoir de l'étudiant. Voilà pour ce contexte pesant, hein, encore une fois, des réformes actuelles, et puis la façon dont on peut les voir, l'interprétation qu'on peut en donner. Ceci étant dit, je pense qu'il faut quand même replacer ces réformes dans un temps peut-être un peu plus long, et avoir en tête qu'elles viennent à la suite d'autres transformations, en fait, de l'enseignement supérieur, qui dépassent largement, en fait, le cas de la France. Et ces transformations longues, en fait, et puis aussi la façon dont ça se passe à l'étranger, c'est, je pense, en avoir conscience, c'est peut-être aussi une première étape pour aller vers une compréhension plus rafraîchissante aussi de ce qui se transforme, et puis aussi pour construire à l'avenir des mobilisations. Pour être plus précis, ces réformes, elles viennent à la suite de transformations, donc qui, je l'ai dit, touchent l'ensemble de l'enseignement supérieur, et puis qui ne sont pas forcément toujours très bien, très évoquées, en fait, notamment à l'occasion de la dernière mobilisation. C'était pas toujours aussi. On a beaucoup insisté effectivement sur le fait que, ben voilà, il y avait quand même le risque, c'était que les étudiants issus des milieux populaires n'allaient plus pouvoir rentrer dans l'enseignement supérieur, n'allaient plus pouvoir faire des études longues. Ceci dit, il y a quand même d'autres éléments dans le décor, dans le contexte, qui méritent, à mon avis, d'être mentionnés. Notamment parce que, j'y viendrai ensuite, elles peuvent aussi impulser d'autres mobilisations, notamment en faveur du salaire étudiant. Il y a Une chose qui a été rarement mentionnée lors des dernières mobilisations, c'est que ces réformes, elles arrivent dans un contexte où le public de l'université s'est aussi transformé du point de vue du sexe des personnes qui rentrent à l'université. Ça vient à la suite de décennies d'ouverture de l'enseignement supérieur, aussi pour les femmes, en fait. On a eu une augmentation des effectifs d'étudiants qui, en fait, a reposé énormément sur les femmes. Elle a aussi énormément reposé sur les étudiants étrangers. Ça, c'est statistiquement vérifié, en fait, hein. Il y a eu une hausse extrêmement importante. On est passé. Donc, les femmes aujourd'hui sont majoritaires dans l'enseignement supérieur. Vous avez aujourd'hui, depuis 15 ans, vous avez eu aussi un doublement, par exemple, du nombre d'étudiants étrangers. Ce que vous pouvez aussi pressentir, même si c'est un sujet assez à controverse, hein, aujourd'hui en France, c'est que dans ces nouveaux publics, notamment à l'université, vous avez aussi beaucoup d'enfants d'immigrés qui sont aussi arrivés dans l'enseignement supérieur. Et donc, ces réformes, elles arrivent vraiment après l'arrivée de tous ces nouveaux publics dans l'enseignement supérieur, notamment dans un enseignement supérieur où les frais d'inscription sont particulièrement peu élevés au regard de ce qui se passe encore une fois dans l'enseignement supérieur privé ou alors dans les pays anglo-saxons. Et il se trouve que ces transformations des publics, ça s'est ajouté aussi à un développement qui se poursuit encore aujourd'hui avec la réforme, hein, un développement des pratiques de l'alternance, notamment entre études et emploi, entre études par le biais des stages, des alternances, etc. De plus en plus, il y a toute une dynamique qui est régulièrement présentée comme une professionnalisation des études, mais ça aussi, ça se développe, ça fait partie du décor. Et c'est d'autant plus significatif de mon point de vue que ça se passe aussi à l'étranger. Cette ouverture, cette féminisation que j'ai évoquée, la hausse des étudiants étrangers, le développement de l'alternance, peut-être aussi, mais ça c'est encore une fois c'est un peu plus difficilement vérifiable, l'ouverture de l'enseignement supérieur aux enfants d'immigrés. Et bien tout ça se passe aussi au-delà de la France, et ça a donné lieu à une relance des mobilisations étudiantes dans certains pays. Ces dynamiques-là sont mobilisées dans le cadre des mobilisations, et notamment, et c'est peut-être l'actualité rafraîchissante, notamment au Québec, où vous avez un mouvement social étudiant assez, assez original qui aujourd'hui revendique le salaire étudiant et puis a adopté en fait en quelque sorte le point de vue du travail étudiant en s'appuyant sur les dynamiques, les transformations longues de l'enseignement supérieur que j'ai évoquées tout à l'heure. Ce mouvement, je vous le présente en détail. Il est impulsé par des comités qui s'appellent les comités unitaires sur le travail étudiant. Ce sont là-bas ils disent les cutes, les mignons, les mignonnes, comme dans le dessin animé. Et ces comités unitaires sur le travail étudiant sont en fait massivement animés par des femmes, en fait, des étudiantes. C'est particulièrement elles qui impulsent cette mobilisation, qui a pour entrée principale la rémunération des stages et notamment la grève des stages. Vous avez l'année dernière, à l'automne, vous avez eu une grève. Elles ont réussi à impulser une grève qui a mobilisé à l'automne sur une journée 15 000 stagiaires. Et avec quelques avancées aussi de ce point de vue-là, encore une fois sur la rémunération des stages. Là, elle prévoit une mobilisation d'une semaine, du même type, une grève d'une semaine, encore une fois, pour obtenir la rémunération des stages et puis le versement voilà, d'une rémunération en rapport avec les salaires que touchent leurs collègues, les collègues qu'elles côtoient lors de leur stage étudiant, souvent en éducation, en travail social, en soins infirmiers. C'est souvent dans ces domaines que les étudiantes et puis les étudiants mobilisés travaillent. Et donc font jusqu'à 900 heures de stage. Hein. C'est quand même des volumes extrêmement importants, jusqu'à 900 heures de stage pendant une année. Ce qu'elle leur principale entrée, c'est une entrée au fond très très féministe. Elles insistent énormément sur le fait que le développement des stages, c'est particulièrement imposé aux femmes et que ça renforce les aspects les plus vocationnels et la dimension de travail gratuit des études et ça la renforce d'autant plus dans les filières féminines en fait. Parce que ce qu'elle pointe avec de façon très très percutante, c'est que les stages qui sont rémunérés, ce sont les stages qui se déroulent dans les filières où les hommes sont majoritaires. Et que les stages qui ne sont pas rémunérés, c'est les stages dans les filières où les femmes sont majoritaires. Je vais, pour pas trop monopoliser la parole, je ne vais pas en dire plus sur cette mobilisation. Si vous avez des questions ou ce genre de choses, je pourrais y revenir dans la discussion. Mais toujours est-il que derrière tout ça, si la clé d'entrée principale, c'est la rémunération des stages, la salarisation des stages, vous avez aussi un point de vue donc sur le travail étudiant. Elle rappelle régulièrement la mobilisation sur les stages, la salarisation des stagiaires. C'est une occasion pour ces comités de rappeler régulièrement que les études, c'est un travail, qu'aujourd'hui, il est gratuit, voire même payant, hein, puisque c'est dans un contexte où, en fait assez anglo-saxon, où les frais d'inscription, c'est des milliers et des milliers d'euros, et que cette dimension-là du travail, c'est ce travail gratuit, il s'applique d'autant plus, il se développe d'autant plus donc pour certains publics et notamment les femmes, mais aussi vous avez un discours aussi sur les milieux populaires, hein, vous avez aussi d'autres analyses qui sont développées autour de cet angle d'attaque très féministe qui est développé par les comités unitaires sur le travail étudiant et l'horizon évoqué régulièrement dans les tracts ou dans les textes. Qu'elles font circuler pour les textes d'analyse, en quelque sorte qu'elles font circuler. Et puis voilà, donc dans les tracts de mobilisation, vous avez l'horizon du salaire étudiant qui est régulièrement évoqué, avec aussi peut-être l'autre élément qui est intéressant, c'est que vous avez une critique aussi des stratégies qui ont été utilisées dans les mobilisations passées contre la hausse des frais d'inscription. Pour elles, ces mobilisations ont perdu parce que justement, il n'y avait pas ce point de vue du travail étudiant et c'était le point de vue de la lutte contre la marchandisation de l'enseignement supérieur qui était défendu. Cette idée que voilà, avant on avait un enseignement supérieur qui était autonome, qui était préservé des forces économiques, etc. Et puis qu'aujourd'hui, il serait massivement attaqué par ces forces économiques. Elles ont un discours très critique sur cette compréhension des réformes et elles insistent. Encore une fois, pour les quelques raisons que j'ai évoquées, et puis pour d'autres dont on pourra discuter, sur l'idée davantage que les études sont un travail, et un travail massivement gratuit dont souffrent particulièrement les femmes et éventuellement, dans une moindre mesure, les classes populaires. Voilà l'une des actualités rafraîchissantes. Que je peux ajouter, moi, de mon point de vue, c'est lié aussi aux mobilisations qui ont eu lieu dans le passé en faveur du salaire étudiant. J'ai particulièrement étudié ça, c'est retranscrit dans le livre, hein, c'est détaillé et analysé dans le livre Un salaire étudiant. Mais donc, il y a eu en Europe de l'Ouest, vous avez eu des mobilisations aussi en faveur du salaire étudiant avec une entrée par le travail étudiant. Par l'idée que les études sont un travail. Et ce que montrent ces mobilisations, c'est aussi, enfin, ce que permettent de souligner ces mobilisations qui ont eu lieu dans le passé, c'est que elles sont aussi un élément en fait du décor, comme toutes les mobilisations étudiantes, et que si ces réformes aujourd'hui avancent, si elles ont avancé particulièrement au Royaume-Uni, si peut-être elles avancent de plus en plus en France, c'est aussi à la suite au Royaume-Uni d'un abandon de la revendication du salaire étudiant par le mouvement étudiant, et en France, il faut le dire, d'un déclin de cette revendication, contrairement à ce qu'elle a pu être dans le passé. Et donc, l'une des bonnes ce que montrent aussi ces mobilisations et le contexte dans lequel elles ont eu lieu, et ce qui justifie aussi le point de vue des Québécoises, c'est que l'une des bonnes raisons de renouer avec cette tradition revendicative et ce point de vue du travail étudiant, c'est que l'une des étapes dans le développement notamment de la sélection voilà, des étudiants, la hausse des frais d'inscription des étudiants étrangers, dans le développement sans limite donc des frais d'inscription et de l'endettement étudiant. L'une des étapes, c'est aussi un abandon ou un déclin de la revendication du salaire étudiant et puis du point de vue du travail étudiant. Et on a là, encore une fois, une bonne raison peut-être de renouer avec cette revendication, c'est-à-dire que le fait de l'abandonner conduit, d'un point de vue historique, à, au fond, ouvrir les portes aux réformes qui nous touchent particulièrement aujourd'hui. Ce que montrent aussi c'est les mobilisations, ce que soulignent aussi les mobilisations et puis le contexte dans lequel ça s'est passé, c'est que, voilà, encore une fois, vous avez un déni, en fait, un déni assez radical aujourd'hui, mais qui au fond a quand même beaucoup existé dans le passé, un déni radical de la condition de travailleurs, de travailleuses, des étudiants, des étudiantes. C'est ça aussi qui fait lit des réformes, de la hausse des frais d'inscription, du développement de l'endettement étudiant. Et ce qu'on remarque notamment dans les échanges des conseillers, c'est que ce déni se radicalise, puisque de plus en plus, on en vient même à faire passer les étudiants et les étudiantes pour des consommateurs, des consommatrices. Et donc on peut, à la manière des CUT, appréhender les réformes actuelles véritablement comme un déni de plus en plus radical de la condition de travailleurs, de travailleuses, des étudiants, des étudiantes. Un déni radical de la façon dont elle et ils contribuent, notamment lors des stages, à produire des choses extrêmement utiles, des choses extrêmement nécessaires, la façon dont elles contribuent des fois directement à la production dans le monde de l'emploi, le monde de l'auto-emploi, mais aussi un déni, là aussi c'est là que c'est l'une des entrées des Québécoises, un déni des productions qui sont aussi faites durant les études en présentiel, c'est-à-dire en dehors des stages, durant les études classiques, etc., notamment un déni du travail de recherche que peuvent faire les étudiants et les étudiantes de plus en plus, qu'on leur demande, notamment un déni de la façon dont les étudiants et les étudiantes peuvent, si on leur en donne les moyens, documenter des nouvelles réalités, contribuer aussi à l'occasion des stages à faire connaître de nouvelles connaissances qui ont pu être développées dans l'enseignement supérieur, dans la recherche. Vous avez là en quelque sorte un déni de la condition, de la capacité des étudiants, des étudiantes, des personnes en formation à produire des choses extrêmement utiles, à produire des choses de valeur ou même à produire de la valeur tout simplement. Et encore une fois, ce déni, on peut aller plus loin et dire que ce déni, ça ne s'applique pas forcément à tous les groupes sociaux de façon égale et que certains groupes sociaux, les femmes, les classes populaires, les étudiants et les étudiantes qui sont encore une fois des enfants d'immigrés, les étudiants étrangers, sont particulièrement touchés par ce déni et auraient particulièrement à gagner à une relance de la revendication du salaire étudiant et puis aussi à une diffusion du point de vue de l'analyse que développent notamment les Québécoises et qui a pu être développée dans le passé en Europe de l'Ouest, l'analyse du travail étudiant. Voilà, en résumé, pour conclure, peut-être dire aussi que voilà, moi je suis conscient et puis bon, voilà, les Québécoises aussi, les Québécois avec lesquels je suis en échange, sont conscients, encore une fois, qu'on revendiquer aujourd'hui le salaire étudiant, adopter le point de vue du travail étudiant, ça soulève plein de questions. Ça n'est pas forcément évident. Et voilà, dans la discussion, on pourra en reparler. L'une des principales questions, moi, je pense que c'est quand même une question de stratégie politique. Hein. C'est aussi des choix qu'on fait aujourd'hui. Dans quelle mesure le salaire étudiant, le point de vue du travail étudiant, ça peut mobiliser remobiliser dans l'enseignement supérieur, remobiliser ou mobiliser certains publics, hein, c'est l'une de ces questions, ce type de questions qui se posent, ces questions stratégie politique. Ça se pose ça peut être posé de façon d'autant plus nécessaire aujourd'hui, on a en gros, en fait, deux façons, pas forcément antagoniques, mais de façon assez distincte de revendiquer le salaire étudiant qui se sont dégagés. Le point de vue des Québécoises, bon, c'est un point de vue très, très féministe. C'est quand même une façon très féministe de défendre le, le salaire étudiant. Aussi, voilà, il y a un point de vue aussi assez anticapitaliste dans la façon dont elle défend le salaire étudiant. Elle le revendique d'ailleurs. La façon dont ça a été revendiqué en Europe de l'Ouest, c'était une façon beaucoup plus, peut-être beaucoup plus syndicale, mais aussi peut-être beaucoup plus anticapitaliste, de revendiquer le salaire étudiant qui a été adopté. Donc voilà, aujourd'hui, ça pose des questions, enfin, en termes de convergence des luttes. Est-ce que, dans quelle mesure ces points de vue, et puis d'autres points de vue, pourquoi pas un point de vue antiraciste, hein, sur le salaire étudiant, pourquoi pas d'autres points de vue peuvent aujourd'hui être associés et mobiliser vraiment beaucoup de public et mener à ce qu'on a l'habitude d'évoquer comme une convergence des luttes. Voilà, c'est ce type de questions, à mon avis, qui se posent principalement aujourd'hui quand on veut revendiquer le salaire étudiant et puis adopter aussi à nouveau le point de vue du travail étudiant. Mais au-delà de ces questions, ce point de vue et puis cette revendication présente véritablement, notamment dans ce contexte pesant qu'on a évoqué, de véritables atouts. J'en citerai deux pour conclure, hein. Le premier, c'est que vous voyez avec ce point de vue qu'on répond aussi davantage donc sur le terrain de l'adversaire et qu'on aborde beaucoup plus de front les questions économiques qui touchent de façon beaucoup plus offensive, les questions économiques qui touchent de plus en plus l'enseignement supérieur, qui se développent de plus en plus dans l'enseignement supérieur. On s'y attaque frontalement, on développe un discours politique autour de ces réalités économiques, notamment autour du travail, autour de la production, autour de la valeur. Voilà, on situe davantage les personnes en formation comme des personnes qui sont de façon beaucoup plus positive, des personnes qui peuvent contribuer, des personnes qui peuvent produire. Donc vous avez ce premier atout, hein, voilà, de ce point de vue, dans un contexte, encore une fois, où on a tendance à de plus en plus nier cette dimension-là, cette dimension très productive du travail étudiant. Ben, l'autre atout, il est encore plus politique, hein, c'est que ce point de vue du salaire étudiant, du travail étudiant, ben, ça permet d'évoquer l'existence de systèmes d'oppression globaux qui vont bien au-delà de l'enseignement supérieur, des systèmes d'oppression ben, capitalistes, patriarcaux, voire d'autres systèmes d'oppression qui existent en dehors de l'enseignement supérieur, mais qui aujourd'hui peut-être sont de plus en plus présents dans l'enseignement supérieur et notamment dans l'université. Donc ça permet aussi d'évoquer ces systèmes d'oppression globaux, de discuter de ces systèmes d'oppression globaux, de mieux les dénoncer davantage dans l'enseignement supérieur en les articulant à une revendication concrète. Et donc ça permet aussi peut-être de préparer davantage leur remise en cause radicale dans l'enseignement supérieur, mais aussi bien au-delà, en développant les échanges politiques et en mobilisant autour de ces systèmes d'oppression globaux et de leur remise en cause. Voilà, je vous remercie.